Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Les seuls en scène, ça court les rues. À Paris, on dirait même que ça court les boulevards, y compris les grands boulevards. Et c'est sur les grands boulevards que nous vous encourageons à courir, voir celui du garçon qui nous rend aujourd'hui visite. François de Broer est dans le spectacle à pour titre « Rencontre avec une illuminée ». Si vous y allez en courant, vous risquez d'y arriver essoufflé. Vous en ressortirez époustouflé. L'expression « seul en scène » mérite d'ailleurs d'être relativisée, étant donné que François, enfin Simon, son personnage, il convoque une foule d'individus qu'il interprète au fil du récit avec une stupéfiante virtuosité. Au point que, bien que littéralement seul en scène, on finit par avoir l'impression d'être dans un hall de gare un jour de départ en vacances. Et l'on rit, et l'on s'esbaudit, et l'on s'émeut. Et pour les seniors de ma génération, l'on se réjouit de voir qu'un Philippe Cobert, référence ultime en la matière, a fait école, et que cette école-là nous donne à tous une furieuse envie de la fréquenter. Aussi bien j'y reviens, l'expression seul en scène mérite d'être discutée tant il serait plus convenable de parler de pièces de théâtre incarnées par un seul acteur, ou littéralement, comme disent les anglo-saxons, d'une performance. Ne bougez pas, popopien, ce n'est pas une illuminée que vous allez rencontrer aujourd'hui, mais un acteur qui n'a pas fini d'illuminer le théâtre. François de Broer est notre invité, et popopop, c'est parti.
France Inter, popopop, Antoine de Gaulle.
Bonjour François de Broer.
Bonjour Antoine.
Alors avant toute chose, est-ce que vous êtes venu tout seul ou bien vous embarquez à chaque fois tout votre petit monde avec vous ?
Eh bien je suis venu.
Ils sont tous là.
Ça déborde.
Non mais comment vous venez faire une émission de radio ? Je m'adresse à qui là ?
Là vous vous adressez à François de Broer. Il y a aucun
François
problème.
De Broer, ouais, donc ouais. L'auteur et l'interprète.
Absolument.
De la rencontre avec une illuminée, l'illuminée elle-même n'étant pas là. On va en parler. Vous savez que vous pouvez raconter absolument tout ce que vous voulez, parce que l'avantage de la radio, c'est que tout repose sur la voix. Là, par exemple, je peux vous dire que c'est Jean Lassalle qui vous pose une question.
Bonjour Jean.
Ben bonjour.
Je n'ai pas voté pour vous, malheureusement.
Oh, ben ça, c'est moi-même, j'ai quand même fait 3%. Bon, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez.
Vous êtes atteint de la même maladie que moi, non ?
Ouais, ça s'appelle comment
ça
cette
me
maladie ?
Je sais pas, écoutez... Vous l'appelleriez comment vous ?
Je l'appellerai pas à moi. Ouais. Elle vient à moi toute seule. Mais c'est quelque chose qui vous poursuit aussi dans la vie ?
Ben, faut croire. Ouais, je crois que j'ai une espèce de maladie mimétique. Ouais. J'ai une tendance à imiter. C'est peut-être une déformation professionnelle à force de composer des personnages. Mais je me suis rendu compte en commençant par faire de l'improvisation qu'en fait, j'avais pas le même bagou que mes camarades, j'avais pas la même répartie, et quand j'étais planqué derrière un personnage bien incarné, j'emportais les suffrages de la salle, et comme en improvisation, il faut voter pour les équipes, et puis voter pour les joueurs, ben j'étais... voilà.
On va y revenir à l'impro, mais en fait, moi ça m'amène à une question très simple, tous ces personnages que vous jouez, vous passez de l'un à l'autre comme ça, comme si vous faisiez de la haute voltige, juste pour donner une indication à nos auditeurs, François de Broer, qui êtes-vous ?
Waouh ! C'est une excellente question. Peut-être qu'on fait des spectacles pour essayer d'y répondre. En tout cas, c'est vrai que ça m'aide de passer par cette démultiplication pour essayer de me rencontrer. Puis je crois, même dans la vie, il m'arrive parfois de faire des révélations tout à fait intimes à travers des masques, à travers des personnages. C'est parfois plus facile, je dis des choses sur la scène à travers mes personnages que je dirais pas avec un flingue sur la tempe dans un repas de famille.
Ou en direct à la radio.
On
a une heure pour le vérifier. Bon, un peu de musique pour se mettre en jambe avec un petit morceau dont le titre est tout un programme, c'est « Right Place, Wrong Time ».
Up in my mind. Ooh. Just got to give my myself a good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. I got to cue of my insecurity. But I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song.
Dr. John, right place, wrong time. Alors, François de Brouwer, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de ce spectacle qui a emballé l'équipe de Pop Pop Pop, rencontre avec une illuminée et dont nous parlerons en détail dans quelques instants avec Charline Roux, elle-même parfois illuminée. Mais comme je dis toujours, avant de parler de l'œuvre, parlons un peu de l'homme. Encore que dans votre cas, j'ai l'impression que vous tricotez les deux d'une manière très, très subtile et que vous transformez d'une certaine manière votre vie en œuvre. Vous avez 2 heures, François.
Oui, c'est vrai que j'ai été surpris de... C'est-à-dire que ce spectacle est un peu plus autobiographique, mais il l'est pas complètement. Et par exemple, je cherche pas du tout à imiter mes proches. Comme je change tous les prénoms, je m'autorise aussi à changer les faits. Mmh. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il est plus autobiographique que le premier. Et aussi que ce deuxième que je devais jouer, qui s'appelait Les Performants, ouais, et que finalement je n'ai pas joué, qui était aussi moins autobiographique. Et j'ai mis un coup de pied un peu à ma pudeur, et je suis allé chercher des improvisations plus personnelles. Voilà, comme je parlais de... Je me suis inspiré d'une amie.
Ouais.
Il était évident illuminé, que je me mettais en scène. Voilà, la fameuse illuminée. Il était évident que je me mettais en scène aussi. Et du coup, je suis allé rechercher aussi toutes les improvisations qui relataient aussi le mysticisme au sein d'une famille bourgeoise. Et voilà. Enfin, je ne voudrais pas trop parler.
Non, mais on va y revenir. On va y revenir avec Charlie. Et vous avez eu tout à fait raison de filer un coup de latte dans
la pudeur.
Ah ouais
c'est important.
Oui,
vous l'avez fait, vous aussi.
Oui, mais je me suis fait très mal. Je suis blessé.
Oui, c'est douloureux.
Bon, j'évoquais Philippe Cobert dans mon intro, et croyant quelqu'un qui a vu tout Cobert sur scène, et parfois plusieurs fois, ce n'est pas un mince compliment. Il y a quelque chose d'absolument étourdissant dans votre projet d'incarner tout seul tous ces personnages que vous convoquez pour cette histoire. Vous aviez déjà proposé un spectacle qui s'appelait La Loi des Prodiges, le premier.
Tout à fait.
Et fonctionnant à peu près sur le même principe. À quel moment vous êtes-vous dit, vous qui venez du théâtre classique, que c'était ce chemin-là que vous vouliez emprunter ?
En fait, c'était mon fantasme d'adolescence. Je voulais être humoriste, moi, à la base, puis j'ai fait de l'improvisation.
Il y a
trop d'humoristes.
Il y en a trop.
Oui, oui. C'est aussi ça. Je me suis dit, il faut peut-être être un peu plus original et trouver une autre forme. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pas décidé. C'est que je suis allé j'ai fait le conservatoire. Donc, j'ai fait des études de théâtre plus classiques, plus académiques. Et j'ai joué avec passion pendant des années les pièces de répertoire, Shakespeare, Molière, Tchekhov. Et je pense que ça m'a influencé. Et quand j'ai découvert Cobert, tout ça s'est fait en même temps. Mais quand j'ai découvert Cobert et que j'ai vu que c'était à la fois l'humoriste et l'homme de théâtre qui était comme ça, qui est entremêlé en une seule et même personne, ça m'a évidemment inspiré à un point que j'imaginais pas, parce que quand j'ai commencé à improviser, je pensais pas du tout improviser à la Cobert, je pensais être beaucoup plus dans un mode stand-up. Et puis en fait, les personnages sont arrivés, ont commencé à s'invectiver comme ça de manière réaliste, et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Cobert. Je me suis interdit pendant des mois de regarder des spectacles de Cobert. Et puis maintenant, j'assume ces codes-là d'être dans la continuité
bien
de son œuvre.
Bien sûr. Quand je dis qu'il a fait école, c'est vraiment.
Oui, je suis évidemment pas seul à être inspiré.
Noble, il y en a beaucoup, du terme. Beaucoup. Alors, on parle de Cobert, mais il faut aussi dire deux mots de Michel Faux, entre les mains duquel vous êtes passé. Il vous a aidé à ouvrir les chakras, comme dirait Stella.
Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est quelqu'un, c'est un professeur qui nous autorisait beaucoup. Qui nous proposait de nous libérer de tout un tas de carcans. Je me souviens qu'il me faisait dire du Molière en voix de tête, par exemple, ce qui peut sembler complètement interdit, disons dans le jeu plus contemporain. Mm-hmm. Et c'est un homme passionné.
Ça donne quoi du Molière avec une voix de tête?
Aussi n'est-ce point-là ce qui me charme en vous, et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. Évidemment, c'est interdit de faire ça.
Il faut pas jouer comme ça.
On dirait. Oui. Mais disons que pour nous libérer, pour nous autoriser, à nous lâcher, voilà. Donc c'était.
Vous êtes François, vous êtes auteur, comédien, compositeur. Vous avez écrit des programmes courts avec Benjamin Laverne de la Comédie Française pour la télévision.
Avec Benjamin, non, on n'a pas écrit de programme court avec Benjamin. Ah oui, non, moi j'ai pas écrit un entretien. J'ai joué un épisode.
Juste joué, d'accord. Je vous aviez prêté aussi votre plume.
Non, non.
Autant pour moi, je découvre qu'avant de fréquenter le cours Florent, vous avez commencé par des matchs d'impro.
Absolument. D'accord. Oui, ça a été la première école.
Est-ce que ça a vraiment changé, déterminé votre approche du métier? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans des spectacles qui sont chorégraphiés au millimètre?
Oui, c'est déterminant. En fait, l'improvisation, j'en fais plus comme, disons, comme spectacle, mais je l'utilise comme outil d'écriture énormément. Mmh. Donc, ça m'a beaucoup influencé. Ce que je vous disais sur la composition, ça c'est évident. La composition, le mime, tout ça, je l'ai éprouvé dans les matchs d'improvisation. Mmh. Et puis c'est des premières expériences de scène qui vous donnent beaucoup de confiance quand vous êtes adolescent et que vous retrouvez devant des salles entières. Après, quand on arrive à Paris, qu'on commence les cours de théâtre, on se rend compte que quand on joue devant 20 personnes, c'est vraiment extraordinaire. Bah nous, on jouait là dans nos théâtres de banlieue devant des salles entières. Bon, il y avait beaucoup d'amis et de famille, mais voilà, on avait quelques mots de vocabulaire. Et on arrivait quand même à faire passer un bon moment aux gens.
Vous y retournez parfois, l'impro?
Ouais, je vais voir mon ami Christophe Iriondo, qui est d'ailleurs coproducteur du spectacle, s'occupe de Paris Impro. Mm-hmm. Donc voilà, qui est une boîte de production qui fait des matchs d'impro à l'européen. Et je vais voir régulièrement les copains et retrouver cet état d'esprit que j'aime beaucoup, quoi.
Alors, pour être tout à fait complet, on vous a déjà aperçu au cinéma et on vous verra bientôt dans le film Année 20 d'Elisabeth Vogler.
Salut, et je vais vous raconter comment on a tourné un film d'une heure et demie dans Paris à la sortie du confinement en un seul plan sans jamais couper la caméra. Le film s'appelle Année 20.
Projet assez fou encore là, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est une folie post-confinement?
Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, je reçois un coup de fil de mon ami Joris Savodo juste après le premier confinement qui me dit on va tourner un film en plan séquence dans Paris. Dans 3 semaines, 1 mois, est-ce que t'es partant? Au début, moi, j'y crois pas du tout. Et puis, y a une énergie dans ce collectif, qui est derrière ce personnage, cette entité fictive qui est Elisabeth Vogler. Il y a tout un collectif d'artistes et ils m'ont convaincu. Ils sont comme ça surentraînés. Ils ont fait un premier film qui s'appelle Paris est à nous et ils sont entraînés à tourner comme ça dans la rue, un peu système D. Et voilà, donc j'ai partagé une scène avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est François Rollin.
Excellent professeur Rollin.
J'étais très heureux de le rencontrer aussi, parce que c'était une référence pour moi, notamment dans le monde de l'improvisation, avec son éloquence légendaire.
Ouais. Bien. Eh bien, on attend ça avec impatience. Année 20, vous savez quand c'est annoncé, non?
C'est le 27 avril. Ouais.
Le 27 avril, ça arrive très très vite. Bien, alors voilà pour les fondamentaux. Maintenant, attendons l'arrivée de Charline Roux, illuminé parmi les illuminés, pour plonger dans cette fameuse rencontre avec une illuminée. Et en attendant, je vous propose d'écouter un morceau de M, qui, à vrai dire, ne nous laisse pas le choix, puisqu'il chante « Faut que je passe dans ta radio ».
Faut que je passe dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer. Depuis que l'orage est passé, je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio.
fréquence, malgré nos histoires, nos distances.
Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux. Car oui, voici que nous rejoint à cheval, semble-t-il, Charline Roux, qui arrive au grand galop des steppes picardes. Waouh,
même... bah, grande région équestre, quand bah, même, oui, la Picardie, on est réputé pour ça.
Même pas essoufflée.
Non.
Essoufflée, j'ai dit essoufflée.
Échevelée, peut-être aussi.
Bonjour Charline.
Bonjour.
Rencontre avec une illuminée, c'est un peu mon quotidien depuis 5 ans, mais celle-ci est un autre modèle, un autre genre, n'est-ce pas?
C'est faux, ça fait bien longtemps qu'on a dit que j'avais plus la lumière à tous les étages, mais enfin bon. Sur scène, on rencontre surtout Simon, un comédien en panne d'écriture et en crise de foi. Il rembobine quelques souvenirs d'enfance qui ont façonné sa culture religieuse ou son absence. Funérailles, rencontres avec Jésus, aventures scouts écourtées par une blague potache et fécale que ses chefs de camp ont pu goûter. Et puis Simon raconte ce que devait être son nouveau spectacle, un brûlot drôle et bien senti sur la masculinité toxique, mais ses monologues du pénis ne parviennent pas à convaincre son metteur en scène, et Simon non plus d'ailleurs. Simon est aussi déprimé par sa vie amoureuse, mais c'est à ce moment-là qu'il va faire une rencontre avec une illuminée, Stella, et son entourage bigarré. Une rencontre qui va tout changer. François Debrouwer, cette multitude de personnages que vous incarnez, de votre mère à Stella, est-ce que vous les avez tous croisés? À part Jésus, bien sûr.
pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Non, mais comme je disais tout à l'heure, il y a un tressage entre l'autobiographie et la fiction. Je me suis vraiment autorisé à prendre, disons, la vérité comme un carburant au service d'une fiction, quoi. Mais c'est quand même, voilà, il y a pas tellement d'imitation. Peut-être que le personnage, quand même, de l'illuminé, de Stella, y a, ceux qui la connaissent me disent souvent qu'ils la reconnaissent. Mais sinon, voilà, il y a quand même une distance. Et pour le personnage de Simon, bah oui, il y a une légère distance. C'est très proche de moi. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est votre double de théâtre.
Oui, c'est quand même un double de théâtre. Ouais, tout à fait.
Pourquoi ce prénom d'ailleurs?
Franchement, les prénoms, c'est terrible, mais je les trouve en improvisant. Et puis d'accord. Après, je n'arrive plus à m'en passer. Donc, il n'y a pas tellement de sens. On s'était dit qu'on allait l'appeler Thomas, parce que c'est Saint Thomas qui a mis en doute la parole du Christ. Mais en fait, je m'étais habitué à Simon, puis je trouvais ça doux comme prénom. Et voilà.
C'est amusant de parler de double de théâtre. Attention, instant culturel, oui, nous sommes sur France Inter, parce que Antonin Artaud, n'est-ce pas, lui-même passablement illuminé, a écrit une série de textes réunis sous le titre Le théâtre et son double, où il est justement beaucoup question de Dieu et de sexualité. Il y a aussi d'une approche finalement assez magique du théâtre, en plus exaltée, dirons-nous. Ça fait partie des...
Mais c'est une référence lointaine. J'avais lu Le théâtre et son double en cours de théâtre, mais pour être franc, il m'en reste pas grand-chose.
Vous avez raison d'être franc, parce qu'en fait, je ne faisais que rebondir sur l'histoire du double.
C'est Charlie. Un très beau rebondissement.
Le point de départ de la pièce, c'est un discours d'enterrement que la tante de Simon lui demande de prononcer, au motif qu'il est comédien. S'ensuit un dialogue familial avec la mère, la tante, le défunt et Jésus. La famille en point de départ, est-ce que c'est rassurant à aborder ou au contraire, on se fait rapidement des nœuds à l'estomac?
C'était pas rassurant. Ce spectacle s'est écrit rapidement parce que ce que je raconte dans le spectacle, c'est que j'ai changé de spectacle. C'est une vérité. Ça fait partie des choses qui sont vraies. Et c'est vrai que le fait d'avoir écrit vite dans une forme d'urgence, je pense, m'a autorisé ce dont on parlait, le coup de pied à la pudeur, et du coup à ne pas trop me préoccuper de comment allaient réagir potentiellement les gens qui pouvaient se reconnaître. Mais non, pour moi, c'est plus difficile. Ça a été un saut dans le vide que de me dire bon. Voilà, je parle de moi un peu plus. C'est-à-dire que moi, je m'imagine toujours dans la fiction cette espèce de spectre entre le journal intime et Tolkien. Voilà, avec la loi des prodiges, j'étais un peu au milieu, et là, je suis allé plus près du journal intime, quoi.
Alors, un des risques lorsqu'on fait référence à ses proches, c'est que l'édit proche soit littéralement effaré de se voir ainsi évoqué.
Oui, c'est ça.
Sans être indiscret côté famille, tout s'est bien passé avec la vôtre, ou bien il y a eu des réclamations peut-être.
Comme je ne les imite pas, ils se reconnaissent pas du tout. Par exemple, ma tante. En fait, j'ai des tantes, donc la situation est réelle. J'ai vraiment une tante qui m'a demandé de dire un texte à l'enterrement de mon grand-père, mais la vérité est un peu déceptive, c'est que je l'ai dit ce texte en vrai. Je l'ai dit pendant la mise en bière de ce grand-père que je n'avais pas connu. Mais elle ne se reconnaît pas parce que je me suis dit j'ai préféré l'incarner différemment que ce qu'elle dégage dans la vie. Mais j'ai utilisé cette situation que je trouvais forte et intéressante.
Et votre mère?
Et ma mère ne se reconnaît pas. Ma mère ne se reconnaît pas non plus. Mais c'est assez. Son rapport à la croyance est assez réaliste. C'est-à-dire que j'aime bien quand elle dit non, je crois pas en Dieu. Je crois. C'est plus vaste que ça. Ma mère, c'est un peu son discours sur la religion. C'est-à-dire que elle pratique pas. Elle va pas à la messe. Mais on respecte. On respecte à la fois les traditions et les croyances.
Bien sûr. Et la fameuse illuminée, alors, qu'en est-il de cette Stella?
Ah, cette Stella. Alors, déception nouvelle. Je ne l'ai pas rencontrée pendant que je paniquais à l'idée d'écrire ce spectacle. Je l'ai rencontrée, en fait, il y a beaucoup plus longtemps, quand j'avais à peu près 18 ans, en cours de théâtre. Donc, elle s'appelle Estelle Meyer. Dans la vie, elle est chanteuse et comédienne. Et c'est une fille incroyable. Voilà, qui comme le personnage de Stella s'enthousiasme de tout, inspire son entourage, a aussi un mode d'expression très particulier et poétique. Et voilà, on a tous besoin d'une Stella dans nos vies. Et
quand même,
Estelle.
Si je comprends bien, François, tout ce que vous nous racontez, là, ça veut dire que vous fictionnalisez le réel, votre vie, mais à un point qui en devient extrêmement troublant, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment la vie telle quelle que vous nous racontez.
Ah oui.
Non, ça vous a fait cette impression aussi, Charles?
Ah ben moi je n'avais pas vu la distance. Pour moi, on recevait Simon. D'ailleurs, il faut que je change toutes mes fiches, toutes interviews, enfin tout est.
Ah oui.
Mais alors, loin de moi l'idée d'être monomaniaque, et aussi parce que j'ai jamais eu l'occasion de prononcer cette phrase. Parlons de Jésus. Ah. Vous imaginez un Christ assez particulier, un Christ que je qualifierais de planète rap. Comment est-ce qu'il est né? Et ne me répondez pas Joseph, Marie, etc. Je vous prie.
En fait, ce personnage-là, faut dire, quand j'étais adolescent, moi j'ai un peu le cul entre deux chaises socialement, c'est-à-dire je viens d'une famille plutôt bourgeoise, comme vous avez pu l'entendre dans le spectacle, mais j'ai grandi plutôt avec des prolos et j'étais en admiration devant ces types qui parlaient comme ça, et du coup je les imitais déjà, la maladie mimétique, et je voulais leur ressembler, et donc c'est un personnage qui revient souvent, et la situation de m'excuser auprès de Jésus, de ne pas croire en lui, c'est une situation que j'ai en moi depuis aussi très très longtemps. Comme quoi, on écrit vite, mais d'un coup, voilà, le temps de la création est paradoxal. D'un coup, il y a des choses qui ressurgissent. Et quand j'ai commencé à improviser autour de cette idée, le fait que ce personnage arrive, ça me paraissait génial. Et puis, voilà, ça mettait aussi en scène à la fois ma fascination pour ces types-là, et aussi Jésus, la distance, voilà.
Vous passez d'un personnage à l'autre avec une apparente et déconcertante facilité. Les changements d'identité sont signifiés par un phrasé, une tonalité, un accent différent, puisque sur scène, vous n'avez pas d'autre accessoire que votre corps et votre manière de le positionner. Comment est-ce que vous fabriquez toutes ces particularités vocales? Et puis, accessoirement, combien de temps de travail pour pas les mélanger, en fait?
Comment je les fabrique? C'est vrai que parfois, je les fabrique, parce que parfois, je vais les chercher, j'en ai besoin. Mais il y en a qui sont en moi, ancrés depuis très longtemps, qui sont nés pour d'autres spectacles, dans des improvisations, qui sont nés même bien avant, peut-être quand je faisais de l'impro. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, plus que des personnages, j'ai l'impression que, comme j'écris plusieurs spectacles maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment une troupe d'interprètes à qui je distribue les rôles de la nouvelle fiction. Parce que dans les performants, il y a plein d'interprètes qui sont revenus. Et là, c'est pareil pour Rencontre avec une illuminée. Par exemple, le personnage du grand-père, il est né dans un spectacle de masse que j'ai fait justement avec Benjamin Laverne il y a très très longtemps. Voilà, et...
Ils ont tous des voix différentes, en fait. C'est comme ça qu'on...
Ils ont des voix différentes et il y en a qui s'expriment, qui s'expriment. De toute façon, cette écriture-là, c'est vraiment les personnages qui prennent le pouvoir, ou les interprètes, ou ces interprètes-là. Et du coup, ils ont leur autorité et je les laisse s'exprimer, quoi.
François de Brouwer, il n'est pas exagéré de parler de virtuosité dans votre cas.
C'est gentil.
Quitte à vous faire rougir.
Mais il y en a qui aiment pas la virtuosité.
Non mais attendez, c'est une virtuosité mais extraordinairement bien utilisée parce qu'il y a rien n'est marqué, souligné, les personnages se parlent, se répondent à une vitesse impressionnante sans que vous ayez recours au subterfuge classique, qu'on connaît dans le théâtre. Dans quel état mental devez-vous vous mettre avant d'attaquer une représentation? Parce que pendant une heure et demie, c'est non-stop.
Moi, je fais tout ce que je fais avant de jouer, c'est me détendre un maximum. Je suis plutôt d'un naturel un peu anxieux et je ne fais que aller vers un maximum de détente. Je peux même aller jusqu'à l'endormissement. Voilà, c'est donc je me détends. En fait, c'est dans ces codes-là. C'est comme s'il y avait un narrateur. En fait, on ne peut pas se laisser submerger totalement par l'émotion d'un des personnages, puisqu'on on les incarne tous. Donc il y a toujours une forme de distance, c'est que de l'évocation. Donc c'est comme si on était une forme de narrateur, mais un narrateur qui passe plutôt par le biais de l'incarnation des personnages pour raconter son histoire. Donc il y a le calme du narrateur, voilà.
La galerie de personnages que vous incarnez est absolument irrésistible, vous vous en moquez, pourtant ce qui transparaît c'est une impression de grande tendresse pour tous ces énergumènes, y compris pour les chefs scouts. Est-ce que c'est le cas?
Ben oui, ça doit faire partie de ça doit être ma sensibilité. Oui, une grande tendresse, l'humour mêlé à une forme de tendresse, c'est-à-dire que il y a un principe de moquerie et de parodie. Mais oui, je sais pas, c'est submergé par une envie de rendre hommage aussi à ces personnages. Il y a un type auquel je pense quand je pense humour et tendresse, c'est Jean-Jacques Santé, qui m'a beaucoup inspiré. Et quand je regarde ses dessins, je me dis toujours que j'ai envie de provoquer la même émotion chez les spectateurs, c'est-à-dire un rire tendre et aussi une invitation à plonger dans un abîme de réflexion, mais sans jamais forcer le spectateur à le faire. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le comble de l'élégance dans l'écriture et dans la création.
Avec des débordements dans la folie.
Ça part en vrille.
Et tout ce que vous dites, là, une fois de plus, ça me conforte dans cette idée que vous êtes vraiment dans cette lignée Cobert. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour chez Cobert, mais jamais un humour agressif, jamais méchant.
Bien sûr.
Chez Non Manquant, entre Cobert et Jim Carrey, quand même.
Ça me fait plaisir.
Chez Non Manquant, entre Cobert et Jim Carrey. Vous savez quoi? On va réfléchir sur cette phrase et puis on va reprendre cette conversation dans quelques instants. De toute façon, là, je vois que c'est l'heure des pop news.
Deux teasers pour présenter les personnages du prochain film de Michel Hazanavicius, Z comme Z, un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté, perturbé par l'irruption de véritables morts-vivants dans le rôle de la maquilleuse Bérénice Bejo.
Saloperie de zombies.
Oui,
nique-toi. Nique-toi, tu fais la merde. Je vais tous vous ouvrir le cul.
Et dans le rôle du réalisateur, Romain Duris.
C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con. On continue de tourner, on n'aura pas la caméra.
Au casting également, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield et Z comme Z. Ce sera le 15 juin dans les salles.
Et on reparle de The Linda Lindas, groupe de punk rock féminin de Los Angeles. Les jeunes filles âgées de 11 à 17 ans avaient fait sensation en jouant à Los Angeles Public Library l'année dernière la vidéo de leur titre raciste sexiste Boy, qui était devenue virale et avait été saluée par des groupes tels que Red Hot Chili Peppers et Rage Against the Machine. Elles sont de retour et en live dans les sessions de la radio publique américaine Tiny Desk Concert et elles interprètent ici Growing Up. Et Et on vous glisse l'intégrale de la prestation dans The Linda Lindas sur le compte Twitter 3615 popopop.
Une nouvelle série de et avec Mike Myers, oui, Austin Powers. Et ça a l'air bien barré, le postulat est le suivant. Et si une société secrète de cinq hommes s'efforçait d'influencer les événements mondiaux pour le bien de tous depuis la peste noire de 1347? Un journaliste canadien improbable se retrouve embarqué dans une mission visant à découvrir la vérité et peut-être même sauver le monde. Et le nom de cette société secrète qui donne son titre à la série, c'est The Pentaverate.
The Penta what the fuck?
What is this?
You gotta do an exposé on it.
If you break a story like the Pentaverate, you can do something good for this world.
I haven't had this much fun since I was at a nudist colony and accidentally backed into a meat thermometer.
Et The Pentaverate, ce sera le 5 mai sur Netflix.
France Inter. Pop, pop, pop.
Mais c'est moi.
C'est Jean Lassalle.
Mais oui, c'est la semaine Jean Lassalle, évidemment.
Je n'ai pas voté pour. Et...
Laissez-nous tranquilles maintenant, monsieur.
3%. Merci, Charline. François de Breuer, je rappelle que votre formidable spectacle, Seul en scène, rencontre avec une illuminée, est au théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 21 mai et que c'est une merveille à ne louper sous aucun prétexte. Mais pour l'heure, effets spéciaux, car nous sommes dans Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Oui, bien sûr. C'est le son qui vous évoque la pop culture, François, celui des sabres laser de Star Wars. Et oui, je vous le confirme, on nous a déjà fait cette proposition 800 fois.
Ah oui, c'est bien ce que je me disais.
Mais
oui,
peu importe.
Oui, oui, oui. Vous je sentais qu'il y avait un manque d'originalité avec cette idée.
Il vous évoque quoi, vous, ces sabres?
Oui, moi, quand je pense pop culture, je pense à ces œuvres qui deviennent incontournables et qui influencent comme ça l'imaginaire planétaire. Et c'est assez fascinant. Ça me fascine de me dire qu'il y a Star Wars, c'est un type qui a eu l'idée, ou Harry Potter, c'est une nana qui a eu un jour l'idée et que d'un coup, on est tous influencés par ça. Pop culture m'évoque ce son-là.
Et ouais. Vous qui avez un petit don pour les bruitages, vous savez imiter le sabre du Yoda?
Je n'ai jamais essayé, c'est une première. Qu'en pensez-vous,
Charline?
C'est pas dingue.
Mi-mouche, mi-sabre.
Ah oui, c'est dingue. Je fais la mouche.
Beaucoup plus indulgente qu'avec moi. Très bien.
Ah, mieux.
C'est quoi ça?
Bombe de peinture.
Et vous, Charline?
Mais je ne sais pas le faire, moi. C'est pour ça que je ne me lance pas.
C'est pas grave. C'est ainsi que de l'arbre est très bien.
Je fais hyper bien.
Popliste. Nous vous avons demandé, François de Breuer, de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment. Votre livre, François, c'est La confrérie des giflés de Jean-Luc Gaget, qui est votre co-auteur, je crois.
Absolument, absolument.
Un premier roman un peu foufou, Charline?
Jérémy Soldatini se fait gifler dans un bar par un inconnu qui prétend s'appeler Nietzsche. Il ne dit rien et tourne les talons. Depuis cette gifle, le hante complètement et avec elle, toutes celles reçues dans sa vie. Pour éclaircir le mystère, Jérémy Soldatini engage un détective privé et c'est Will Smith, le coupable. Non, ça je l'ai inventé, pardon.
Bon, j'imagine que vous partagez une communauté d'esprit, sinon de gifles, avec Jean-Luc Gaget.
Absolument.
Peut-être Will Smith aussi.
Et c'est vraiment le livre du moment, parce que je suis en train de le lire, il vient juste de paraître. Mais voilà, j'ai lu une cinquantaine de pages et je retrouve la fantaisie, l'humour de Jean-Luc que j'adore. Et en effet, il a coécrit Rencontre avec une illuminée et on a aussi écrit un scénario ensemble pendant le confinement. Ça a été une rencontre importante et très belle.
Jean-Luc Gaget, donc La confrérie des giflés. Vous connaissez l'éditeur?
La Thèse.
La Thèse, bien, ouais. Bien joué. Votre film du moment, c'est Magnolia, le film mythique de Paul Thomas Anderson. Charline, moi je dis Tom Cruise à son meilleur, non?
Quiconque l'ayant vu prêcher pour sa paroisse Scianto se demandera si c'est un vrai rôle de composition. Et il n'empêche que Magnolia est un grand film sur le deuil dans lequel se croise un homme mourant, son infirmier, le fils gourou que ce dernier est chargé de retrouver et il pleut des grenouilles.
There are stories of coincidence and chance and intersections and strange things told. And which is which and who only knows. And we generally say, well, if that was in a movie, I wouldn't believe it. These strange things happen all the time.
Et
Et la musique de Amy Mann, bien sûr, fantastique musique. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? C'est quoi le film sur le deuil? C'est les prestations
Alors, en fait,
Cruise.
Je suis complètement fasciné par les films choraux. Je regarde Pulp Fiction tous les 6 mois depuis mes 14 ans. Je sais pas, il y a une grâce absolue dans le film choral. Et celui-ci, je l'ai découvert plus récemment au moment où j'écrivais Les Performants, la fameuse pièce que je n'ai pas jouée. Et en fait, j'avais le fantasme de faire un seul en scène qui soit aussi choral avec plusieurs protagonistes, qui est excessivement paradoxal. Je crois surtout qu'il est temps aussi pour moi d'écrire pour d'autres interprètes. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire, d'écrire des pièces et des films. Et ce que j'adore aussi chez Paul Thomas Anderson, dont je regarde tous les films, revois tous les films en ce moment, c'est cette capacité à rendre l'acteur vraiment créateur. Ouais. Et de, comme vous disiez sur Tom Cruise, c'est vrai qu'il est, il est incomparable dans ce film. Il est incroyable. Je trouve que c'est pareil avec la plupart des acteurs. Ils sont à leur meilleur niveau et vraiment sublimes dans les films de Paul Thomas Anderson. On dirait qu'il écrit avec eux, quoi.
Je passe à la série. La dernière série qui vous a marqué, dites-vous, François, c'est Transparent sur Amazon avec Jeffrey Tambor. Charline, qu'est-ce qui est transparent?
Mon teint, mais il y a 35 ans. Morton réunit ses trois enfants, désormais adultes, pour leur parler d'avenir. Seulement, il ne s'agit pas d'héritage, mais de son identité de genre.
So I have something to tell you.
I have to tell him.
No.
Yes.
Allie's crazy.
Tell me what?
Dad is a woman.
Is mom though?
Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time?
No, honey, all my life, my whole life, I've been dressing up like a man. This is me.
Transparent. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette série Transparent?
Bon, ça date un peu. C'est vrai qu'il y a eu plein d'autres séries depuis, mais je crois que c'est la dernière qui
m'a gagné quand même.
Oui, c'est vrai. Les vieilles références. Mais non, mais ça m'a bouleversé cette série. Il y a une espèce de, je sais pas comment dire. Il y a une audace dans l'écriture et dans la forme. Il y a une forme d'audace révolutionnaire et jubilatoire dans cette écriture. Et puis je trouve ça hyper malin. Déjà, c'est très touchant, la situation de cet homme qui veut devenir une femme après avoir mené une première vie de père de famille. Mais ce qui est très très malin, c'est que les enfants, ils sont progressistes, ils sont intelligents, cultivés, et ils sont plutôt acquis à la cause. Mais c'est pas si simple. Voilà, je trouve que c'est une série qui est très bien sur disons la difficulté qu'on peut avoir entre des idées qu'on peut conscientiser et la réalité, avec laquelle il faut. Faut dealer, quoi.
Bien, écoutez, ma poplist commence à être presque complète. J'ai un film, j'ai un livre, j'ai une série. Il me manque une chanson, évidemment, une chanson, François de Brouwer. Et c'est le joyeux, j'irais presque jusqu'à dire guilleret, You Want It Darker de Leonard Cohen.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified, be thy name.
François de Brouwer, pourquoi ce choix, disons, bucolique, presque champêtre, en fait? Leonard Cohen. Si vous aimez les voix de basse, vous allez être servi dans quelques instants.
Déprimer tout le monde. Non, c'est vrai que c'est la chanson que j'écoute avant de jouer. Mm-hmm. C'est ultra paradoxal parce que c'est vrai que je vous assure, le spectacle est drôle, mais je sais pas. C'est une chanson qui me donne le là aussi du dilemme dans lequel est ce personnage. C'est-à-dire que ça me touche beaucoup, ce mélange d'adoration et d'affront à cette force supérieure qu'on peut appeler Dieu, et ça me touche énormément. Et puis surtout cet homme à cet âge-là qui dit à Dieu I'm ready my Lord, je sais pas, qui est proche de la mort. Il y a quelque chose de bouleversant et de très très classe.
Bien, et ben ça y est, je l'ai, ma popliste. Et alors, une fois de plus, si vous aimez les voix de basse, ne bougez pas, parce que j'ai une petite surprise pour vous qui va arriver dans ce studio. Mon cher François de Brouwer, je rappelle que votre fantastique spectacle Rencontre avec une illuminée, c'est jusqu'au 21 mai au Théâtre du Petit Saint-Martin, et qu'on aura le plaisir de vous voir également au cinéma dans Année 20 d'Elisabeth Vogler, qui sort le 27 avril. Donc, pour l'instant, je propose d'accueillir avec nous Avi Kaplan, qui était en concert hier à l'Alhambra et qui vient nous chanter en live un morceau de son premier album solo, Floating on a Dream. C'est un album qui sortira, lui, le 20 mai. Et pendant qu'il arrive dans le studio, je vous propose d'écouter ensemble cette chanson-là, When I'm a Fool.
and I'm the same. Wish I could change the things I said that caused you pain. Fire in my eyes that made you cry. Filled up all the oceans and swallowed all my pride. And it sunk to the bottom of the sea. Yeah, I swear to stay there in the deep. And I know I wasn't right. Don't be mistaken, I'll tell the truth when I'm a fool. Mistaken, I will always tell the truth when I'm a fool.
C'est Avi Kaplan, un extrait de son nouvel album qui va sortir au mois de mai. Et Avi qui nous rend visite en studio avec Harold Manning, son interprète aujourd'hui. Bienvenue dans Pop Pop Pop. Welcome, Avi.
Thank you very much. I'm so happy to be
here. Merci, je suis tellement content d'être ici avec vous.
Ah oui, ça ne vous change pas tellement de Leonard Cohen, la voix là, François?
Non, ah oui, c'est vrai, on est pas là, je suis très heureux.
Vous étiez en concert hier soir à l'Alhambra. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes content du public français?
Yes, it went really well.
Ah oui, c'est très bien passé. C'était vraiment une belle façon de terminer notre tournée. Le public était fantastique.
C'est un public en fait qui vous suit depuis des années, puisque vous étiez donc dans ce groupe Pentatonix. Ensuite, vous avez eu votre groupe Avi de Sequoias, et vous voilà maintenant en artiste solo. Donc, c'est un public fidèle qui vous suit au travers du temps.
Yes, definitely.
Yeah, oui, complètement.
It's very very cool to
have people cool follow me through all the things that I've done. De and les voir suivre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et de voir vraiment des gens qui me connaissent depuis les Sequoias, pas depuis Pentatonix.
Parce que ce groupe vocal Pentatonix, qui a quand même remporté 3 Grammy Awards, ça a fait votre notoriété dans les années 10. Et puis vous avez décidé après de partir pour faire votre propre musique en 2017. Donc d'abord avec ce groupe Avril and the Sequoias, et puis aujourd'hui en solo, sous votre propre nom. Alors, vous dites que la musique aujourd'hui coule naturellement de source, comme si vous aviez trouvé d'une certaine manière une forme de paix artistique.
Yes, absolutely.
Oui, complètement.
Yeah, it's you know, this music that I'm doing now is
cette musique que je joue en ce moment, c'est vraiment la musique que j'ai toujours écrite et qui est toujours sortait naturellement.
But, you know,
venait naturellement. Mais j'avais pris d'autres voies auparavant. Et je pense que quelque part, tous les chemins m'ont mené là où je suis. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager la musique que j'aime, partager mes racines maintenant sur scène.
Je vous remercie de ne pas vous être approché trop près du micro parce que vous allez me coller la membrane là.
Pour en terminer avec vos précédentes vies, c'est vrai que c'est au sein de Pentatonix que vous vous êtes fait remarquer grâce à de voix graves et profondes qu'on entend, y compris quand vous parlez. Mais vous, quand est-ce que vous avez réalisé que vous aviez une voix avec ces capacités-là?
It was when I joined choir,
c'était quand,
in high school.
Au lycée, so when I was about 14, j'ai participé à une chorale.
My voice had changed.
J'avais 14 ans, ma voix avait mué.
And I remember,
je me souviens,
you know, being around my classmates,
parmi mes copains dans la classe, ils me regardaient bizarrement.
Your voice is so different
now, and ta voix a complètement changé. Et moi-même, je n'avais pas remarqué.
You know, and then I went into the choir room with the choir conductor, and he was very
excited because la chorale, le chef de la chorale, il était extraordinairement so, content parce qu'il voyait you know, qu'il avait une voix vraiment différente de celle des autres.
Really cool to,
c'était cool de
have that, that sense of belonging,
d'avoir know, ça à moi, si vous voulez. Purpose, you know. Et ça avait quelque chose à me donner une raison yeah. d'être dans cette chorale.
Alors, avis assis juste à votre gauche, je vous présente François de Breuer, qui lui aussi fait des prouesses avec sa voix. François, d'ailleurs, pouvez-vous me montrer jusqu'où vous descendez vous...
Dans les graves. Ouais. Dans les graves, ouais, je vais plus jusque là. C'est mon maximum.
On est chez Audiard. De fait, on est chez Audiard.
C'est pas grand chose.
C'est pas. Non, non. Je suis désolé. C'est ce qu'on peut. Hein.
Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, vous. Évidemment. Ouais. Ouais.
Oh, I don't know. I could not do what he does.
Je sais pas, moi je pourrais pas faire ce que lui fait.
Moi non plus, je pourrais pas.
Est-ce que parfois c'est handicapant d'avoir une voix tellement profonde, ou est-ce que pas?
I think that sometimes it's a little tough to understand me.
Parfois c'est un, je suis un peu difficile à comprendre.
Speak a little higher.
J'essaie de monter un petit peu la voix pour être bien compris.
So that people can understand me.
Pour que les gens comprennent ce que je veux dire.
In a crowd.
Par exemple, dans une foule, il faut vraiment que je lève la voix, il faut que je monte le ton.
Et par exemple, est-ce qu'à l'époque de Pentatonix, ce groupe vocal, donc qui faisait du a cappella, vous avez eu à un moment le sentiment d'être devenu prisonnier d'un rôle, de cette voix que vous deviez incarner?
Ouais, c'était une expérience intéressante, cependant, d'être dans Pentatonix. Mais j'utilisais simplement 10% de ma tessiture. Et c'était très rarement que j'interprétais derrière des paroles. Je faisais des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de chanter mes paroles, celles qui viennent de mon cœur. Et là, j'ai eu l'impression donc d'avoir évolué, d'avoir grandi, et de pouvoir développer ma voix et de la mener là où je ne pouvais pas auparavant. Et donc, c'est une expérience vraiment belle pour moi.
Ah, vous savez quoi, on a tous envie de vous écouter maintenant, François.
Ah oui, avec joie.
Et puisque vous allez nous faire un morceau qui s'appelle On My Way, je vous suggère de, ben justement d'aller On Your Way to the magnificent stage of the pop. You go. And pendant que vous vous déplacez, ben je vais meubler un petit peu, par exemple. François,
oui, meublon.
Vous étiez déjà tombé sur une basse profonde comme ça dans un Je ne crois pas.
Non, c'est une première.
C'est une grande première. Vous êtes ému?
Oui, c'est bouleversé.
Je vous sens tout chose.
Il y a un personnage de jeune femme qui a une voix un peu grave dans votre spectacle, mais un peu.
Bien.
Je crois qu'on est.
La médium.
Avi, dès que vous êtes prêt, when you're ready, you do a sign and I will do the pop. Okay. Starting pop. Ok? 3, 2, et c'est parti.
All right. Ready?
Yes.
Cool.
Thank you. Mama, it's been far too long since I've been back home and we sang a song. But time's gone by like a cloudy day and just fell away like a drop of rain. But hey, hey, I'm on my way. Hey, 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 I'm on my way. I hate that we've had to wait. Papa, I do pray you're well, that a worried thought never comes around. I got your blood and I got your name. If I got your will, I should be okay. But hey, 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 I'm on my way. I hope that you've been okay. Hey, 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 I'm on my way. I hate that we've had to wait. Sister, I've been a-missing you. We saw the world and we made it through. You held my hand and you wiped my tears. Lord, it feels like 100 years. But hey, hey, I'm on my way. I pray that you've been okay. Hey, 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 I'm on my way. I hate that we've had to wait. Brother, you've been on my mind. All I want is to see you smile. And though you've gone to the Galilee, I know your heart is next to me. But hey, 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 I'm on my way. Hey, hey, hey. Hey, hey, I'm on my way. I hate that we've had to wait. Yeah, I hate that we've had to wait.
Kaplan, live dans le studio de Pop Pop Pop, et le morceau c'était On My Way. Merci infiniment, Avi. Merci François de Breuer. Je rappelle que votre spectacle Rencontre avec une illuminée se joue jusqu'au 21 mai au Théâtre du Petit Saint-Martin, qu'il faut y courir. Merci aussi à vous, Avi Kaplan, pour ce live magnifique. Je rappelle que votre album Floating on a Dream sort, lui, le 20 mai. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain. Merci aussi à Harold Manning, notre interprète aujourd'hui.